archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de votre fidélité. L'écoute des archives de l'écologie ne prête pas à l'optimisme. Les nouvelles du front environnemental ne sont pas bonnes. La situation se détériore dans de nombreux domaines depuis les reportages réalisés autour de l'an 2000 pour Radio France Internationale par l'équipe de Fréquence Terre. Un quart de siècle plus tard, les progrès sont rares, les reculs nombreux. Rien de tout cela cette semaine. Notre archive s'intitule « Le retour du vélo ». Et les rues de Nantes sont la preuve que ce retour est désormais bien installé. On va d'abord voir comment s'est organisée la montée en puissance de la bicyclette au tournant de ce millénaire, dans un monde où la voiture était la reine absolue. Après quoi, nous jetterons un coup d'œil sur l'évolution de la situation depuis cette époque. C'est Ben Kramer qui est aux commandes aujourd'hui de...
Fréquence Terre.
Ben Kramer. Aujourd'hui sur Fréquence Terre, le vélo gagne du terrain.
On se retrouve dans 20 minutes.
Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette.
Quand on interroge les gens à vélo et quand on bavarde dans la rue, on leur dit « Ah, c'est bien le vélo, etc. », les gens disent toujours « Ah oui, oui, c'est agréable, ça me détend, c'est pratique, je vais plus vite », des choses comme ça. Mais jamais ils disent « Ah, c'est bon parce que ça pollue pas ». Ça, les gens ne le diront jamais. Parce que ça, c'est une construction intellectuelle qui ne vient pas du tout à l'esprit. Et c'est sur les vraies motivations des gens qu'il faut s'appuyer si on veut développer le vélo.
Et oui, le vélo est de plus en plus à la mode. Et les citadins, à Paris comme ailleurs, ne s'en plaignent pas. Au contraire, que ce soit pour se détendre, pour se déplacer en cas de besoin, nous avons de plus en plus recours à ce mode de transport. Nous assistons à la promotion du vélo. Pour encourager ce phénomène, une quinzaine de bicyclettes viennent d'ailleurs d'être mises à la disposition des députés de l'Assemblée nationale. Écologie oblige. D'ailleurs, les députés, s'ils le désirent, pourront bientôt parcourir tout le continent européen à vélo. La prochaine journée en ville sans ma voiture, la deuxième du genre en France, est prévue le 22 septembre 1999. Au micro, le ministre français du transport et de l'équipement, Jean-Claude Guessot.
Ben, une ville sans voiture, c'est déjà, disons, une interpellation, si je puis dire, non seulement des citoyens, des automobilistes, mais des élus, et puis des salariés, des entreprises, des transports collectifs, pour à la fois faire réfléchir et puis peut-être changer de comportement lorsque c'est possible. Il ne s'agit pas de diaboliser la voiture, on a besoin de la voiture. Il en faudra, y compris dans les villes, en tout cas en zone, interurbaine. Mais il faut aider à ce que chaque fois que l'on peut, on utilise non pas sa voiture, mais d'autres modes de transport qui sont à la fois plus économes d'espace. Je pense au transport collectif. Je dis franchement, mais ce n'est pas exclusif. Je pense aussi aux deux roues, même je vais vous dire, je crois que si on marchait quelquefois un peu plus à pied, ce ne serait pas un drame. Et cette année, après la première expérience positive de 1998, nous voulons que cette initiative, non seulement elle concerne plus de villes françaises, mais qu'elle soit européenne, puisque c'est en quelque sorte sur le continent européen où des questions, disons, convergentes se posent avec force.
Un seul jour sans voiture sur 365, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un signe. Et le projet français va dépasser les frontières et donner un souffle nouveau à la Fédération européenne des cyclistes, basée à Bruxelles. Commentaire de Marie-Caroline Kopiters, secrétaire générale de la Fédération.
Toutes ces initiatives sont excellentes parce qu'elles sont un exemple démonstratif de ce qui est possible de faire. Et je sais qu'à Paris, par exemple, la grève des transports en commun a fait énormément de bien à la politique cycliste de Paris. et que des progrès ont été enregistrés au niveau de l'augmentation des trajets faits à vélo. Et je pense qu'il y aura une certaine coordination européenne à ce niveau-là. Mais ce que nous voulons, c'est qu'en fait le vélo soit considéré comme un mode de transport à part entière, tout comme le sont les transports publics ou les voitures. Et c'est vrai qu'à chaque type de distance convient le mieux un type de mode de déplacement. Et le vélo, lui, couvre idéalement des distances inférieures à 5 km. Et nous voulons que dans les politiques européennes de transport, d'environnement ou de tourisme, cette niche du vélo soit bien établie. Donc que le vélo soit quelque chose de normal et non plus, comme bien souvent le nomment les gens, un mode de transport alternatif.
Reste à savoir pourquoi les Européens sont plus cyclistes que les autres. Pour y voir plus clair, nous avons interrogé le japonais Kaizo Kobayashi. Il a publié en 1994 un ouvrage de 400 pages sur l'histoire de ces drôles de machines, avec le soutien d'ailleurs du Centre culturel de la bicyclette à Tokyo. Explication de Kaizo Kobayashi.
Le vélo, c'est complètement à 100% européen, parce que c'est un Allemand qui s'appelle Baron de Drey, qui a inventé le vélocipède en 1817. Et il n'y a pas de pédale ni chaîne, il fallait pousser la terre pour avancer. Et ensuite, c'était en 1861, et c'était un Français, Michaud, qui s'appelle Michaud, qui a mis la pédale sur la roue avant. Ensuite, c'était en Angleterre que s'est développée la chaîne avec la roue arrière motorisée. Donc c'est un Allemand, c'est un Français et puis des Anglais, donc c'est complètement européen. En Europe, il y a quand même le vélo à droit de cité, tandis qu'au Japon, c'est quelque chose d'importé.
Si le vélo est une invention européenne, tous les Européens ne sont pas logés à la même enseigne. Et les installations aux Pays-Bas, par exemple, ne ressemblent pas du tout à celles du Portugal. Marie-Caroline Kopiters.
Le Nord et le Sud sont très différents au niveau de perception. Et l'on s'attendrait évidemment à ce que dans le Nord, les gens ne fassent pas de vélo puisqu'il fait trop froid ou il pleut trop. Et que par contre, dans le Sud, les vélos fleurissent. En réalité, il n'en est rien. Et la pratique du vélo dans les pays du Sud est très faible. On connaît un taux national d'utilisation du vélo en Espagne à peu près 1%, même chose en Italie. Par contre, en Suisse, vous avez un taux national de 11% de déplacements qui sont faits à vélo. En Hollande, 27%. Et comment expliquer ça? Je crois que c'est une question de mentalité, mais pas uniquement.
Il y a aussi effectivement une question d'installation, d'infrastructure. Pour mieux comprendre cette évolution transeuropéenne et le réseau des véloroutes, par exemple, nous avons posé la question à Isabelle Lesens, responsable de l'atelier d'études sur le vélo à Paris.
Il s'agit d'itinéraires cyclables, presque le plus plat possible, très sécuritaires, donc accessibles à les débutants, les gens qui partent en vacances à vélo une fois par an, seulement une semaine et qui font pas beaucoup de kilomètres, les gens qui veulent seulement aller se promener au départ de leur ville et revenir chez eux, toutes sortes de gens. Et c'est des itinéraires qui traversent toute l'Europe. Fléchés, bien entendu, avec des noms précis, et qui permettent aussi bien, par exemple, d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle que d'aller faire 2 heures de vélo le soir après le travail. Et il y en a déjà pas mal qui sont inaugurés, enfin tout à fait existants, au Danemark, en Hollande, en Suisse et en Autriche. Et le succès, par exemple en Autriche, c'est le long de toutes les rivières, et le plus célèbre, c'est le long du Danube. Et l'impact économique sur les campings, les hôtels, les restaurants est tellement énorme maintenant, alors que personne n'en voulait au départ, que maintenant tous les villages réclament que la véloroute passe aussi chez eux, pas seulement en face de l'autre côté du Danube, mais donc des deux côtés désormais. Et il y a tellement de monde qu'ils ont été obligés de remettre en service un train spécial pour ramener les cyclistes et leurs vélos à leur point de départ, parce que sinon ils étaient tellement envahis de voitures que c'était devenu totalement ingérable.
Sur le vélo, chacun veut être le plus costaud.
Moi, en tant que citoyen européen, j'ai envie de partir à Graz. Est-ce que je peux y aller à vélo?
Vous vous allez vous exposer à d'énormes difficultés. Je pense que vous ne pouvez y aller pour le moment à vélo que sur l'entièreté de l'itinéraire, monsieur. En effet, auparavant, il était possible de prendre son vélo sur le train. Et maintenant, la possibilité de pouvoir transporter son vélo avec soi sur les lignes internationales a été supprimée.
Depuis quand ?
La SNCF a pris sa décision en 98. Les chemins de fer belges ont suivi avec un plaisir évident. Et bien d'autres sociétés de chemin, opérateurs de chemins de fer d'ailleurs. Ce qui fait que pour le moment, il n'est plus possible de passer les frontières avec un vélo et d'aller, comme vous le vouliez, à Graz, en mettant votre vélo sur le train. Donc, cette politique européenne, à la fois d'intermodalité, de transport durable et de grands itinéraires, elle ne fonctionne pas, elle est de moins en moins vraie pour les voyageurs, les citoyens qui veulent voyager avec leur vélo sur le train. Et même envoyer son vélo à l'avance n'est désormais plus possible. C'est incroyable.
Bon, si l'Union internationale des chemins de fer a encore du pain sur la planche, allons donc voir ailleurs, du côté de l'Afrique. L'Afrique n'est pas en reste d'ailleurs. Dans l'amour du cyclisme, avec un petit plus, le recours au vélo, c'est d'abord un outil qui ouvre de nouveaux horizons. D'ailleurs, grâce à une aventure qui relève du recyclage, la ville de Waïgouya, au Burkina Faso, pédale de plus en plus. Explication de Bruno Magnifica, le président d'une association basée à Chambéry, en Savoie.
On a rencontré un jour, ici à Chambéry, un Burkinabé qui a visité les déchetteries de Chambéry. Et en fait, il a été surpris de voir ce que les Chambériens, les Savoyards, jetaient dans une déchetterie, dans une benne ferraille. Et entre autres, il est arrivé au moment où il y a un monsieur qui balançait un vieux vélo. Vieux pour le Chambérien, mais pour l'ami Burkinabé, ça paraissait un vélo qui pouvait tout à fait servir. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de réutiliser en fait des vélos usagés qui n'avaient plus d'usage pour des Chambériens et des Savoyards et les transférer en Afrique, les remonter, les graisser, les remettre en état et les revendre à prix de vélo d'occasion en Afrique pour permettre à des gens qui n'avaient pas le pouvoir d'achat pour acheter un vélo neuf de pouvoir quand même avoir un outil de déplacement et parfois même de création de leur propre activité avec des vélos qui auraient été jetés ici. Alors nous, depuis 4 ans, on envoie à peu près 1200, 1300 vélos par an. On a racheté plusieurs fois des lots au domaine qui étaient des vélos que la police avait récupérés. Ça peut se reproduire à plein d'autres endroits. Aujourd'hui, il y a des gens de Berne, en Suisse, qui travaillent avec des gens de Ouagadougou, la capitale du Burkina, sur la même opération. Il y a des gens de Metz, il y a des gens de Limoges aussi qui sont en contact avec nous pour monter un peu le même type d'opération sur le Togo. C'est vrai que c'est des opérations qui seraient assez faciles à démultiplier.
Mais ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas forcément un exemple qu'on peut généraliser partout. On aurait envie de dire à chacun son rythme, à chacun son cycle. Et à Paris, les cyclistes de 1999 vivent mieux qu'en 1974. Explication du président du MDB, le mouvement pour la défense de la bicyclette, né en 1974, Laurent Lopez.
Je crois qu'en Chine, ils sont en train de vivre ce que l'Europe a vécu avant la guerre de 40 et juste après. C'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens, pour vous élever dans la société, pour changer de rang social, achetez une voiture. Et quand vous aurez une voiture, vous serez considéré, regardé autrement, etc. En France, on fait le chemin inverse. On a foncé dans le tout automobile, en France et en Europe. On a foncé dans le tout automobile et maintenant on est en train de se rendre compte que ça n'a pas que des avantages et que en tout cas ça a quelques inconvénients de taille. Et on essaye de faire machine arrière, mais c'est très dur. À la fin des années 70, c'était vraiment la période moribonde du vélo. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ceux qui se déplaçaient en vélo étaient comme des rescapés et on avait l'impression qu'on allait insister à la fin de ce mode de déplacement et tout était fait à cette époque-là pour exclure le vélo des rues de Paris. Et bon, je pense à un problème particulier, c'est qu'en 1974, les premiers couloirs de bus ont été implantés dans Paris et qu'au début, ils étaient strictement interdits au vélo. Donc le cycliste devait rouler pris en sandwich entre une voie de bus et la circulation générale. Au début des années 80, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui ont continué à circuler à vélo et bon, d'une part, on les regardait comme des bêtes curieuses et d'autre part, vraiment, leur situation dans les rues de la capitale était difficile parce qu'il fallait vraiment se frayer un chemin et comme ils n'avaient aucune légitimité reconnue, leur déplacement était rendu très difficile. Donc après, il a fallu attendre 95 pour que la mairie se décide à lancer un vrai plan cyclable avec des aménagements de qualité et pour qu'enfin le vélo retrouve une légitimité dans les rues de Paris.
Depuis 1995, justement, les adeptes du vélo sont donc soulagés. C'est le cas aussi de Marie Falquet, qui a travaillé longtemps avec la mairie de Paris et qui est bien placée pour témoigner.
Donc cette grande grève a fait que tous les gens ont sorti leur vélo et que tout d'un coup, les dirigeants se sont rendus compte du nombre de personnes qui étaient potentiellement un cycliste. Ça a débouché à la création de la première commission extra-municipale sur le vélo, qui avait l'avantage de rassembler autour d'une même table tous les intervenants, aussi bien la mairie que les services techniques, que les associations d'utilisateurs de vélos, et essayer de formuler ensemble quelque chose de cohérent et qui donne au vélo la place que le vélo méritait et qui lui avait été refusée jusqu'alors. Quand on voit 2 ans plus tard que nos rêves les plus fous ont été entendus, que la préfecture de police a récemment mis sur pied non seulement les policiers à vélo qu'on avait autant réclamés sans vraiment y croire, et même les policiers en patins à roulettes, on se dit tout est possible. C'est des toutes petites victoires, mais qui font extrêmement plaisir.
Conséquence, les administrations bougent. 3 ministères sont impliqués, le tourisme et loisirs, l'environnement et le transport. Pour gérer tout ça, un responsable a été nommé dès 1997. C'est Jean-Marie Tétard, maire d'ailleurs d'une commune dans les Yvelines, et qui a l'honneur d'être le premier monsieur vélo de la République. Jean-Marie Tétard.
Si vous prenez un certain nombre de villes qui font partie du club cyclable et qui ont des observatoires d'évolution du pourcentage de déplacements qui se font en vélo, ces villes-là, qui ont eu des politiques volontaristes et intelligentes en matière de vélo, voient le pourcentage de déplacements en vélo augmenter chaque année. Il y a, depuis maintenant 3 ou 4 ans, chaque année, au mois de juin, une fête nationale du vélo qui prend de l'ampleur, qui est orchestrée partout en France par les associations, les municipalités. Ça dure une semaine. Et toutes les formes de promotion du vélo sont mises en œuvre. Il y a aussi, à l'initiative des 3 ministères environnement, équipement, jeunesse et sport, un concours qui s'appelle Vélo d'or, qui est remis chaque année. Le thème du Vélo d'or de l'année 99 sera le thème du stationnement des vélos. Donc il y a déjà des happenings qui sont réguliers, renouvelés chaque année. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que demain il y ait un fonds interministériel du vélo.
Mais qu'est-ce qui fait courir les militants pro-vélo ? Réponse d'une amoureuse de la bicyclette, Marie Falquet.
J'ai jamais été une militante anti-voiture, j'étais une militante pro-vélo, ou même pro-choix. Je veux dire, c'est la même chose pour les gens qui sont pour ou contre l'avortement. Il y en a qui sont contre, mais les autres, ils ne sont pas pour l'avortement, ils sont pour le choix. C'est la même chose pour le vélo. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est très utile, les voitures, c'est formidable et c'est un instrument de liberté. Ça, je dirais jamais le contraire. Par contre, à grande échelle, ça pose des gros problèmes, surtout dans les villes. Et dans les villes, le vélo, c'est vraiment une option complètement logique parce que c'est très rapide, c'est très pratique, c'est très peu cher. Ça a vraiment tous les avantages pour la ville.
Les fanatiques du vélo se recrutent aussi parmi les amoureux du sport cycliste. Le Tour de France, qui attire désormais des sportifs du monde entier, y est d'ailleurs pour quelque chose. Jean-Paul Laurent est un détaillant installé à Paris depuis 3 générations. Pour lui, le vélo de course ne se vend pas si bien que cela depuis 1 an, mais il a d'autres avantages.
Je suis né dans le vélo, puisque mon oncle a gagné 2 fois Bordeaux-Paris en tant que professionnel. Mon père a été marchand de vélo, donc je ne pouvais pas faire autrement que d'être marchand de vélo. Je vous dirais que j'ai quand même fait, avant d'être marchand de vélo, j'ai voulu essayer autre chose. J'ai été chauffeur de taxi pendant 10 ans. Donc le problème de la circulation, je le connais aussi. Donc c'est pour cette raison que je dis le vélo dans Paris, c'est vraiment le moyen idéal pour se déplacer. Moi, je peux vous dire que le vélo, c'est un sport fabuleux, autant pour la personne elle-même et puis aussi surtout pour sa santé. Moi, j'ai mon père qui a 87 ans, qui encore en 98 montait le Galibier, le Ventoux, l'Alpe d'Huez, et ça le fait pas mourir. Et là, j'ai ma femme qui a été opérée d'une malformation, elle a eu 4 pontages. Le professeur Castaigne d'Henri Mondor lui conseille 3 quarts d'heure de vélo par jour pour sa rééducation. Donc le vélo, je pense que c'est vraiment un sport formidable, mais il faut le dire.
De toute façon, à un avenir, au nord comme au sud. Les initiatives locales comme celle de Chambéry y veilleront. Le mot de la fin à Bruno Magnifica.
C'est vrai que nous, en France, le vélo, c'est plus que rarement un outil professionnel. C'est plutôt effectivement un objet de loisir ou détente. En Afrique, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. C'est quasiment tout le temps un outil économique. En Afrique, au Burkina en particulier, le vélo, c'était vraiment l'outil de vie pour une famille parce que ça permet aux paysans d'amener sur les marchés les marchandises, de véhiculer même des chèvres, des poulets, des choses comme ça. Ça permet de faire un petit commerce ambulant. Ça permet aussi souvent à des infirmières ou à des personnels de santé de se rendre dans des villages. Ça permet à des gamins de poursuivre leur scolarité parce que souvent ils sont scolarisés à l'école primaire dans les villages. Mais après, s'ils veulent poursuivre un peu une scolarité, il faut se déplacer. Et souvent sur plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Une fois que l'achat du vélo est fait, c'est souvent un achat qui est fait pour parfois plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a vu des vélos qui avaient 40 ans, 50 ans et qui continuaient à tourner. Mais après, l'énergie pour le faire marcher, c'est l'énergie humaine. Donc c'est vraiment un outil qui est à la fois écologique, économique et qui est accessible. Quasiment avoir un vélo, c'est déjà commencer à avoir sa petite entreprise.
C'était Fréquence Terre. Une émission du service magazine de Radio France Internationale. Réalisation, Marc Delouvrier. Mixage, Joël Pochon. Reportage et présentation, Ben Kramer.
Reportage produit en mars 1999. Voilà donc un domaine où les progrès sont notables, bien visibles. L'usage du vélo a fortement augmenté grâce aux pistes cyclables, à la location de vélos aux places de parking disponibles. C'est d'abord la volonté politique qui est un acteur de ce développement. Prenons l'exemple de Nantes. 9% des déplacements aujourd'hui se font à vélo dans la ville. C'est une des plus fortes progressions en France, au-dessus de la moyenne nationale. Avec quelques points noirs aussi, puisque certains axes aujourd'hui sont saturés aux heures de pointe. Le pont de Pirmil, par exemple. Et puis le partage entre vélo, voiture et piéton reste un enjeu persistant, notamment dans les zones où les pistes ne sont pas séparées physiquement. Mais restons positifs, le vélo s'est bien ancré dans les mobilités quotidiennes, moins de pollution, plus d'exercice physique, le vélo nous montre la voie. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur notre site alternantefm.fr. Notre archive musicale est un hymne à l'amitié et à la balade à vélo. C'est Pierre Barou qui signe les paroles de cette chanson sortie en 1968. Elle s'appelle « La bicyclette ». Et c'est Yves Montand qui l'interprète.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
À la semaine prochaine.
À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.